pour vous faciliter le quotidien. L'intermédiaire avec Malika Bousla.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Fréquence Sillée, c'est l'émission L'Intermédiaire jusqu'à 11h. Notre invité aujourd'hui sur notre antenne, c'est Monsieur Yvon Lemarié. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association R72. Vous êtes donc le président depuis décembre 2011. Déjà, première question, est-ce que votre association fait partie des fédérations françaises des associations amicales des malades insuffisants ou handicapés respiratoires ?
Oui, tout à fait. Nous sommes affiliés à l'AFER, la fédération donc française des associations de malades insuffisants respiratoires.
Alors, dites-nous, la maladie respiratoire concerne beaucoup de personnes. Il me semble que c'est 600 000 malades qui sont concernés, entre autres par les BPCO. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement ?
Alors, la BPCO, c'est la bronchopneumonie chronique obstructive. C'est-à-dire que c'est une maladie qui affecte les poumons et qui est caractérisée par un blocage persistant de l'écoulement des gaz inspirés au niveau des poumons.
Alors c'est une maladie qui touche 600 000 malades, une maladie respiratoire qui est donc la sixième cause de mortalité en France. Connaissez-vous, monsieur Lemarié, les raisons ? Est-ce le tabac ou y a-t-il d'autres causes ?
Le tabac est malheureusement une des grandes causes de cette maladie. On dit d'ailleurs entre nous que c'est une maladie qui serait évitable, puisque la principale cause est la fumée, mais aussi il y a d'autres facteurs tels que la pollution dans l'air, dans les habitations. C'est pour le préciser, parce que on ne croit pas que chez soi, malgré tous les soins qu'on peut y apporter, l'air peut être pollué, et c'est bien souvent le cas. Il y a bien sûr la pollution de l'air atmosphérique également, les poussières et les produits chimiques en milieu professionnel. Lorsqu'on est au travail, on ne se rend pas toujours compte qu'on inhale des vapeurs, des produits irritants, des fumées, etc. et que ça peut avoir des causes sur la santé et notamment provoquer des syndromes de la BPCO.
Alors votre association R72 a aussi pour mission peut-être d'alerter les personnes à toutes ces causes de la problématique respiratoire, les causes extérieures, environnementales. Vous sensibilisez aussi le public ?
Alors, c'est une de nos volontés, pas toujours facile à réaliser pour une raison toute simple, c'est que la plupart des adhérents de notre association sont des patients. C'est d'ailleurs comme cela que s'est créée l'association il y a maintenant 20 ans, puisqu'elle a été créée en 1992. Et qui dit patient dit personne pas toujours suffisamment forte physiquement pour pouvoir entreprendre de telles démarches. Nous manquons considérablement d'appui et également de bénévoles pour pouvoir le faire, mais c'est une de notre volonté, c'est-à-dire que s'occuper des patients, il faut, c'est une nécessité, mais il y a une autre mission qui devrait être la nôtre, c'est de prévoir, c'est d'anticiper en allant au devant du public, je serais tenté de dire dès leur plus jeune âge, pour éviter certains risques que nous les avons déjà évoqués, à savoir le tabagisme pour ne citer que celui-ci, mais il y en a d'autres bien entendu.
17 000 décès par an, combien de personnes sont touchées en Sarthe ?
Alors sur cette pathologie propre, je n'ai pas vraiment de chiffres précis, mais par contre j'ai un chiffre qui moi-même, quand on me l'a annoncé, puisque c'était une des premières démarches que j'ai faites lorsque j'étais élu président il y a un an, c'est de poser la question à ce que mon binôme scientifique, c'est-à-dire un pneumologue de l'hôpital du Mans, à qui j'ai demandé d'être à mes côtés pour le côté purement scientifique, car moi je ne suis qu'un bénévole, je n'ai pas la prétention de tout connaître sur toutes les maladies respiratoires. Eh bien, la première question que je lui ai posée, c'est: avez-vous une idée du nombre de patients qui ont été traités hospitalisation pour un problème respiratoire. Mmh. Donc voilà un chiffre énorme, 30 000. Hein. Alors évidemment, ça couvre toutes les pathologies et les maladies respiratoires. On cite souvent les mêmes parce que c'est les plus fréquentes, les plus dures. L'apnée du sommeil, la BPCO, d'autres maladies infantiles telles que la mucoviscidose et bien d'autres. Mais au total, c'est 30 000 patients qui, un jour, ont connu un problème respiratoire.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on connaît l'évolution de ces chiffres? Ça va plutôt en augmentant ou, au contraire, ça régresse?
Alors, malheureusement, on ne peut pas parler de régression. J'ai lu il n'y a pas longtemps dans un rapport de l'affaire un chiffre qui m'a interpellé et qui m'a un peu fait peur et qui émane de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, qui prévoit dans des projections qui ont été faites que la BPCO, hein, ça ne concerne que la BPCO, devrait augmenter de plus de 30% dans les années à venir.
Oui, alors
dans
toujours.
Les 10 années à venir, exactement, voilà tel que c'est écrit. Hein.
Oui, et toujours donc, par rapport aux causes dont vous nous avez parlé, c'est-à-dire la pollution.
Par rapport à la vie que nous connaissons aujourd'hui, par rapport à la recrudescence, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et aussi aux efforts qui sont faits pour limiter et voire diminuer le tabagisme, je voudrais pas faire une fixation sur ce phénomène par rapport aux gens qui fument, hein, parce que la liberté de chacun, ça existe et il faut la respecter, mais nous parlons là de problèmes sérieux, de problèmes graves qui touchent la respiration, les voies respiratoires, et le tabagisme est un des facteurs majeurs provoquant des maladies. Donc, on parle dans certaines maladies, et la BPCO en est un exemple, il ne touchait jusqu'à il y a quelques années principalement que les hommes.
Que les hommes.
Que les hommes. Hein. Et aujourd'hui, toujours selon ce rapport de l'OMS, on estime que c'est bien partagé à 50-50 entre les hommes et les femmes. Et ça, du fait que les femmes ont suivi leur homologue homme et se sont mis aussi au tabac. Alors après, chacun pense ce qu'il veut, mais ça va pas dans le bon sens. Quoi.
Oui. Et concernant les enfants, qu'en est-il ?
Alors concernant les enfants, là aussi les risques sont de plus en plus jeunes parce que je ne vais pas trop m'étendre dans le phénomène par incompétence et je ne veux pas aller là où je ne maîtrise pas, mais je crois que c'est facile à comprendre, c'est la logique même. Imaginez une jeune femme qui décide de procréer, d'avoir un enfant, et pendant toute sa grossesse va fumer normalement comme si rien n'avait changé dans sa vie. Est-elle consciente que cette fumée, ce tabac qu'elle va inhaler, elle en donne une partie à son enfant. Et que quand cet enfant va naître, si le facteur chance est favorable, il n'y aura pas de conséquences. Si par contre la chance n'est pas au rendez-vous, et au-delà de la chance, les facteurs purement médicaux, cet enfant risque de naître avec une maladie, alors qu'il ne va peut-être pas se déclarer tout de suite.
Oui.
Parce que vous avez des maladies qui sont latentes, comme on appelle ça, qui peuvent être dans le corps humain et ne se développer qu'au bout de 10, 15, 20, 30 ans.
Vous parlez du facteur chance, Yvon Le Marié, mais c'est vrai qu'il est plus probable quand même que l'enfant qui est à naître et donc qui a inhalé aussi la fumée ait plus de chances d'avoir des problèmes respiratoires. Aussi, parlez-nous de l'intérêt, parce que je pense que l'intérêt du dépistage dans ce genre de maladie est extrêmement important.
C'est primordial, hein, le dépistage il peut se faire au stade de la grossesse, c'est-à-dire avant même, si on part du bébé, du nourrisson, hein, au stade de la grossesse. D'ailleurs, ce qui peut éviter des catastrophes, parce que si au niveau de l'embryon, le corps médical décèle une anomalie qui sera irréversible si l'enfant vient à naître, on peut prendre une décision très difficile à prendre. Je pense que ça doit être quelque chose d'atroce, mais prendre une décision, c'est d'interrompre une grossesse à risque. Ou alors, si l'enfant, on veut veut absolument avoir son enfant, parce que si on l'a procréé, c'est bien dans cette dans ce but, et bien savoir qu'il y a des risques d'avoir un enfant handicapé toute sa vie, ou un enfant condamné à sa naissance qui va peut-être vivre que quelques jours, quelques mois, quelques années, ce qui est aussi dur à vivre. Donc le dépistage à ce niveau-là, et ensuite un dépistage des... Mais je crois que ça se fait d'ailleurs maintenant en pédiatrie de façon systématique, c'est-à-dire que dès la naissance d'un enfant, faire des dépistages de savoir s'il n'y a pas d'anomalie qui pourrait devenir grave par la suite, quoi. Mm-hmm. Mais ensuite, tout au long de sa vie, on peut parler d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil... Les signes avant-coureurs qui peuvent déceler une apnée du sommeil, c'est le ronflement. Hein, donc, bien souvent, c'est le conjoint qui constate que le mari ou l'épouse, parce que ça va aussi dans les deux sens, ronfle terriblement, ce qui peut être gênant. Il y a un côté confort aussi qu'il faut prendre en compte. Et arrivé à un moment, eh bien, le ronflement... s'arrête dans la nuit, il y a ce qu'on appelle des micro-coupures, ce qui interpelle toujours le conjoint qui entend ça.
Oui, en effet, et, ça doit faire drôle, hein, puisque...
Oui, voilà, c'est pas drôle. Ouais. Hein, et donc, c'est souvent ce qui déclenche la prise de conscience et la consultation qui va amener au dépistage.
Ce qui veut dire, monsieur le marié, que automatiquement, si on ronfle, on est victime d'apnée du sommeil? Non.
Alors ça, c'est une idée à laquelle beaucoup de gens croient, mais pas forcément. Un ronfleur peut très bien être quelqu'un de tout à fait sain sur le plan respiratoire. Hein. C'est un autre phénomène, alors là que je connais pas très très bien pour l'expliquer dans le détail. Hein. Mais par contre, comme le ronflement est quelque chose de très très disons gênant pour l'environnement, on peut le soigner. Ça se soigne, hein. Il existe des interventions chirurgicales qui permettent de limiter, voire annuler complètement le ronflement. Bon, ces interventions sont très douloureuses, pas forcément avérées dans le résultat, donc il y a toujours un risque d'échec. Alors, c'est pourquoi on dit toujours aux ronfleurs, si vous me permettez de l'appeler ainsi, pas nécessaire de traiter le ronflement directement par une intervention chirurgicale s'il s'agit d'une apnée du sommeil qui va pouvoir être, elle, soignée différemment et surtout avec moins de risques et moins de souffrances.
Alors, est-ce qu'il existe peut-être d'autres signes pour indiquer justement l'apnée du sommeil, autre que le ronflement ?
C'est bien entendu les difficultés que rencontre le patient au quotidien, c'est-à-dire que perturbe le sommeil. Hein, il y a ce phénomène de micro-coupure qui se produit et donc qui fait que... Alors, je vais essayer de vous expliquer sans trop rentrer dans les détails pour ne pas me perdre, mais lorsqu'on s'endort, on s'endort d'abord dans ce qu'on appelle un sommeil léger. Hein, et donc là, le patient respire normalement, tout se passe bien. Ensuite, on passe dans un second sommeil qui s'appelle le sommeil profond. Et c'est là que les dysfonctionnements se produisent, puisque les muscles et les poumons, c'est avant tout un muscle. Les muscles qui deviennent atrophiés, dans le cas de l'apnée du sommeil, ne font plus leur fonctionnement, ce qui provoque une obstruction au niveau des voies respiratoires. Et c'est ça qui provoque l'apnée du sommeil. Hein. Et il faut soigner ça lorsque on a fait un diagnostic. Et pour pallier à ça, eh bien, on appelle ça appareiller le patient. Hein, c'est-à-dire que on met à sa disposition une machine qui va produire de l'oxygène et qui va compenser ses obstructions. Alors avec évidemment tous les désagréments que ça peut avoir au niveau du confort, puisque être branché sur une machine, ça veut dire avoir un masque et dormir toute la nuit avec son masque sur masque facial, donc sur le visage, ça fait du bruit. Là aussi, les techniques évoluent, donc de moins en moins le bruit est un facteur gênant, puisqu'on arrive maintenant à maîtriser ce phénomène, mais ça existe toujours. Mais par contre, le problème du masque, lui, on ne l'a pas remplacé. Il faut bien que cet oxygène qu'on envoie aux patients pour compenser mais il faut bien qu'il soit dirigé et seul le masque permette de faire.
Est-ce qu'avec cette pathologie, il y a risque de mortalité ?
Oui, bien sûr, il y a toujours un risque de mortalité parce qu'une apnée du sommeil qui est contrôlée va avoir des effets, je dirais, moins graves, moins évidents. Hein, mais une apnée du sommeil qui ne serait pas contrôlée peut avoir effectivement des problèmes, des conséquences très graves, pouvant aller jusqu'au décès, jusqu'à la mort.
Alors si sa compagne ou son compagnon qui est juste à côté de soi, là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand même dans l'urgence si on est victime de l'apnée du sommeil ?
Bien, dans l'urgence, d'abord, c'est de réveiller la personne pour qu'elle retrouve son état normal respiratoire. Mm-hmm. Hein, puisque c'est le sommeil en fait qui provoque ce phénomène d'obstruction qui provoque ces micro-coupures. Donc, si la personne est dans un état éveillé, eh bien, elle va respirer normalement. Mais ça ne veut pas dire que ça exclut tous les risques, parce que les conséquences de l'apnée du sommeil, on sait le manque de récupération, on appelle le sommeil réparateur. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, et ça touche tout le monde, ça. Personne ne peut prétendre qu'il peut vivre sans dormir un minimum chaque nuit, ou d'être un certain temps sans dormir, parce que l'organisme doit pouvoir se reposer pour se régénérer, pour reprendre des forces. Dans le cas de l'apnée du sommeil, si c'est une apnée régulière, forte, eh bien, la personne est au lit, elle croit dormir et en fait elle ne dort pas comme il faut. Et donc, le matin, ce sont les effets que nous entendons souvent auprès de nos collègues qui sont atteints de cette maladie. Eh bien, ça provoque des somnolences dans la journée. On voit des fois les personnes qui, pendant le repas du midi et après, dorment. Ce sont des gens qui deviennent agressifs, changent de caractère, et tout ça parce que c'est les conséquences. C'est le fruit de quelqu'un qui n'a pas récupéré par un sommeil normal.
Donc, d'où l'intérêt du dépistage précoce.
Tout à fait.
Voilà. Parlez-nous aussi peut-être des autres missions de R72, puisque vous êtes donc situé sur Le Mans et vous êtes aussi là pour soutenir les malades.
Oui, tout à fait. Alors,
donc, d'autres missions.
Pardon.
Vous avez d'autres missions ?
Nous essayons de les diversifier. Alors, il y a un gros problème, un phénomène que tout le monde connaît, qui fait que le malade se retranche toujours sur lui-même, hein, et tombe souvent dans la solitude. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on est malade, on vit mal cette différence par rapport aux gens bien portants. On ne peut pas mener la vie qu'on voudrait par rapport aux gens bien portants. Le cas le plus fréquent, imaginez, on parle là de pathologies nécessitant de l'appareillage. Les gens qui sont obligés d'avoir leur oxygène en permanence avec eux, et donc ce masque facial sur le visage 24 heures sur 24, lorsqu'ils sortent vers l'extérieur, eh bien, les gens les regardent. C'est le regard du handicap qui a toujours été un regard suspect, alors qu'il ne l'est pas forcément, mais il est un petit peu pris comme ça de la part des malades. Alors, résultat, eh bien, souvent les malades se retranchent sur eux-mêmes, ils ne veulent plus sortir, ils ne veulent plus faire d'activité parce que ils sont tout de suite fatigués, etc. Alors, le but de notre association, c'est justement de rompre tout ça, de rompre la solitude du malade en gardant un contact, qu'il y ait toujours un contact entre le malade et l'association, en proposant des activités à nos adhérents, des activités ludiques. Par exemple, nous organisons une réunion mensuelle. La réunion, elle a deux buts principaux. La première, qui est d'ailleurs, je dirais, la plus courte, c'est informel, c'est-à-dire qu'on informe nos patients des évolutions, des informations qu'on a pu recevoir de notre fédération nationale, l'affaire, ou qu'on a nous-mêmes été puisés dans différentes instances à laquelle on peut participer. Donc, informer nos patients sur leurs droits, sur les évolutions, aussi bien au niveau du matériel, puisque nous sommes en contact avec des prestataires de services, pour les gens qui sont appareillés par exemple, ou les gens qui ont besoin d'appareils paramédicaux, hein, donc les informer, et ensuite, et c'est surtout là le but, pour redonner un petit peu de sens à leur vie, pour un petit peu leur faire penser à autre chose, il y a ce qu'on appelle la partie ludique, c'est-à-dire que on organise des petits jeux de société, alors en fonction des affinités de chacun, eh bien, il y en a qui vont jouer aux cartes, il y en a qui vont jouer au Scrabble, il y en a qui vont jouer à autre chose, mais voilà, que au moins une fois par mois, c'est les gens qui nous rejoignent pensent à autre chose qu'à leur maladie.
Mmh. Et est-ce que vous mettez aussi en avant pour vos adhérents les avancées scientifiques concernant donc les maladies respiratoires ?
Oui, on essaie de le faire. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas personnellement un scientifique. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a des avancées, lorsqu'il y a des informations, eh bien, déjà, tous nos adhérents reçoivent le journal de l'affaire. Notre fédération nationale édite une fois tous les trimestres, c'est-à-dire quatre fois par an, un journal qui reprenne toutes les évolutions, qui reprenne toutes les démarches que peut faire le bureau, le président et son bureau au niveau de l'affaire. Donc tous nos adhérents sont informés, ils reçoivent ce journal-là, et nous, à notre niveau, eh bien, on relaie également les informations.
Mmh. Yvon Lemarié, est-ce qu'on peut donner un contact pour plus d'informations ?
Ah oui, bien entendu, vous pouvez joindre donc R72 au 02 43 75 86 17.
Voilà. Et alors, dernière question avant de finir cette intervention. Monsieur Lemarié, vous êtes donc vous-même président. Est-ce que vous êtes touché?
Oui, bien
personnellement.
Sûr, parce que si un jour je suis arrivé dans cette association, j'aurais pu le faire par goût de la vie associative, puisque j'ai toujours, depuis l'âge de 17 ans, où je suis arrivé pour la première fois dans une association, j'ai toujours aimé ce contact et ce je dirais un petit peu, quelque part, dévouement aux autres au travers de la vie associative. Hein, donc j'aurais pu arriver simplement en tant que sympathisant. Mais non, c'est pas cette démarche-là qui m'a motivé le plus. Ma démarche, lorsque j'ai eu connaissance de R72, il y a maintenant un certain nombre d'années, ça a été de rejoindre cette équipe parce que je suis moi-même patient. Hein, je suis pas sympathisant, je suis pas... un simple bénévole, je suis patient au même titre que la plupart de nos adhérents. Ça veut donc dire que moi aussi je vis avec une maladie respiratoire depuis ma plus tendre enfance et que voilà, j'essaie de la gérer et de rester en bonne santé malgré tout et en bonne forme pour pouvoir m'occuper des autres.
Mmh. Vous ne l'avez pas signalé, c'est la mucoviscidose. Hein.
Oui, voilà, oui. C'est exactement ça, c'est la mucoviscidose.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Yvon Lemarié d'être intervenu aujourd'hui sur l'antenne de Fréquence I. On rappelle donc les coordonnées de l'association R72. Donc on peut vous appeler au 02 43 75 86 17 pour plus d'informations. Merci encore.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.